RTS La Première présente Mystifica Science, saison 2. Un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques. Avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
En 1835, le quotidien de New York, The Sun, publie une transcription du Edinburgh Journal of Science. Il y a de la vie sur la Lune. Il y a même une civilisation sur la Lune. Ces affirmations auraient pu faire rire si elles n'étaient pas celles d'un des astronomes les plus connus et reconnus de cette époque. Comme nous l'explique l'agente Leslie, tout l'Occident va se passionner pour la civilisation lunaire.
Nous sommes dans la première moitié du 19e siècle. C'est le premier âge d'or de la presse écrite et cette mystification sera la première grosse mystification médiatique de l'histoire. Avant, par exemple, les géants de Cardiff, dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Ce qui est fabuleux dans cette mystification, c'est sa construction. Machiavel n'aura pas fait mieux. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Le 21 août 1835, le journal The Sun de New York, rien à voir avec le quotidien anglais du même nom, reproduit dans ses pages ce qui semble être une annonce du quotidien écossais The Edinburgh Courant. Cette annonce dit ceci. Grande découverte astronomique réalisée par Sir John Herschel au Cap de Bonne-Espérance. À découvrir dans le supplément du Edinburgh Journal of Science. Et c'est tout. Dans le jargon médiatique, c'est ce qu'on appelle un teaser. On met en appétit, on provoque la curiosité du lecteur. Le 25 août, un premier article est publié dans le Sun de New York. Il est signé d'un certain Dr. Andrew Grant, qui se présente comme assistant de John Herschel, lequel est effectivement au Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, en train de mener des recherches astronomiques sur le ciel de l'hémisphère sud.
Alors, vous parlez de John Herschel, et ça, c'est un chercheur qui, à l'époque, est connu.
Oh, connu et respecté. Il est le fils de William Herschel, qui fut, entre autres, le découvreur de la planète Uranus. John, lui, a découvert les nébuleuses et des amas stellaires, et il inventa également des instruments astronomiques. Ce fut, d'ailleurs, le sujet du premier article du Sun. Herschel a créé un immense nouveau télescope, si puissant qu'il permet de visualiser des objets astronomiques avec une précision et une clarté inimaginables. Sa lentille fait 7 mètres de diamètre. Mais la nouveauté est qu'il inclut un microscope à oxygène qui permet de projeter sur une toile l'image reçue. Le texte du Sun donne une idée de la puissance du télescope en disant qu'il permettrait d'étudier l'entomologie de la Lune au cas où il y aura des insectes à sa surface. Et voilà pour le résumé du premier article qui est présenté comme fourni aimablement par un médecin écossais, car paru quelques jours auparavant dans le Edinburgh Journal of Science.
Ouais, donc à l'époque, on ne s'embêtait pas trop avec des questions de droits d'auteur, si j'ai bien compris.
Very true. Quoi qu'il en soit, je veux rendre attentif à la manière dont cette mystification est construite. Pour l'instant, l'araignée tisse sa toile. On nous parle simplement d'un nouveau type de télescope. Heureusement que les lecteurs de l'époque étaient passionnés par les nouveautés technologiques, parce que je ne sais pas si aujourd'hui un quotidien mettrait cette info en première page, et pourtant c'est ce qu'avait fait le Sun.
Oui, c'est une époque où la science et le progrès font vraiment rêver le public.
Ah oui, c'est la révolution industrielle. Et vous allez découvrir que cette mystification n'aurait sans doute pas pu voir le jour si l'on n'avait pas inventé quelques années auparavant la presse à vapeur.
La presse à vapeur.
Mais nous y reviendrons. Nous sommes maintenant le 26 août 1835 et la première page du Sun va faire sensation. Le deuxième article nous dit ceci. Avec son télescope fabuleux, Herschel a pu voir les roches d'une magnifique couleur rouge foncé. En y regardant de plus près, il s'est aperçu que c'était en fait la couleur des fleurs qui recouvraient la roche. La lune hébergerait donc une vie végétale.
Extraordinaire.
Là, non. Mais il y avait-il également des animaux? Ce deuxième article est affirmatif. L'astronome a pu voir des quadrupèdes bruns semblables à des bisons et une chèvre d'une étrange couleur bleuâtre.
Ah oui, donc là, on est un petit peu monté en puissance, hein, tout de même.
Oui, mais vous remarquez qu'on a commencé par des roches, puis des fleurs. C'est vraiment un gros crescendo.
Oui, c'est ça, un crescendo, on va dire, rapido.
Absolument. Attendez de connaître la suite. Le 27 août, le troisième article présente d'étranges castors bipèdes. Bien que primitif, ce mammifère est décrit comme intelligent. Il vit dans des huttes et semble même avoir maîtrisé le feu.
Ah oui.
Mais tout cela n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'attendaient les lecteurs, de plus en plus nombreux, le 28 août. Dans ce quatrième papier, toujours signé par le Dr. Andrew Grant, on apprend qu'il y a sur la Lune, vivant à l'intérieur d'un anneau de collines rouges, des créatures ressemblant à des humains. Avec tout de même quelques différences notoires. Elles sont couvertes partout, sauf sur le visage, d'un pelage brillant et roux. Mais surtout, ces humanoïdes ont des ailes.
Ah oui, oui, oui. Quand même des ailes. Oui, c'est assez fabuleux.
Mais oui, des ailes composées de fines membranes comme des chauves-souris. C'est d'ailleurs pour cela que Herschel les a appelées les Vespertilio Homo. Les hommes chauves-souris. Et ce n'est pas tout. Le Dr. Grant précise que, je cite, « Certains de leurs divertissements ne cadreraient pas avec nos notions terrestres de décorum. »
Alors ça, qu'est-ce que ça signifie en clair?
Mais apparemment, les Vespertilio, comment je peux dire, s'accouplent en plein air.
Ah oui, carrément. Bon, bah, il y va peut-être un peu fort, ce Dr. Grant, non?
Il précise dans l'article que des autorités épiscopales ont été invitées à l'Observatoire de Bonne-Espérance pour observer par eux-mêmes. Ils en attesteront prochainement, nous dit l'article. Mais tout n'est pas si simple, puisque, comme on sait, l'observatoire est en Afrique du Sud.
Alors, comme je sais qu'il y a eu 6 articles au total et qu'on en est seulement au quatrième et qu'on a déjà avec des hommes avec des ailes qui s'accouplent en plein air, je me demande ce que Grant va pouvoir révéler dans les 5e et 6e articles.
Exactement. Bon, pour résumer la chose rapidement. Le 5e jour, le lecteur découvre le temple de Saphir, un temple ressemblant à un immense feu s'élevant vers une grande sphère en cuivre. Mmh. Un édifice assez inquiétant qui permet de s'interroger sur la spiritualité lunaire. Et puis, le sixième jour, les astronomes expliquent qu'ils ont découvert un ordre supérieur de Vespertilio Homo. Des nouvelles créatures, plus grandes, plus belles. Mmh. Les astronomes observent également qu'il règne, je cite, « un état d'amitié universelle parmi toutes ces classes de créatures lunaires ».
Ouais, bon, alors là, on nage en plein psychédélisme, alors que nous sommes, rappelons-le quand même, en 1835, donc c'est assez incroyable.
Incroyable, oui, je suis de votre avis. Ces six articles constituent incontestablement une belle histoire. Le problème, entre guillemets, c'est que dans un premier temps, qui va durer des années pour certains, une large majorité du lectorat du Sun de New York va prendre tout ceci très au sérieux.
Avant de continuer notre discussion avec l'agente Leslie, quelques mots sur l'importance de la presse écrite dans les années 1830 aux États-Unis. La grande nouveauté de l'époque, c'est la presse à vapeur, grâce à laquelle on peut imprimer beaucoup et rapidement. Du coup, la presse se démocratise. Alors que pendant longtemps, le journal coûtait 6 centimes, de nouveaux journaux à 1 centime apparaissent. C'est le cas du Sun de New York, qui est aussi le premier à utiliser des vendeurs à la criée. Et pour que cela fonctionne, il faut vendre beaucoup. En face du Sun, il y avait également le New York Herald, un journal à 6 centimes qui ne voyait pas d'un bon œil ce nouveau Sun. Selon ce que l'on en sait, le Sun passa, entre le début et la fin de cette découverte de la vie lunaire, de 8000 à 19000 exemplaires quotidiens. Mais très vite, d'autres journaux réimprimèrent l'histoire, qui se répand à travers les États-Unis comme une traînée de poudre. Puis, les six articles sont compilés en un petit ouvrage qui est traduit notamment en français déjà en 1835, sous le titre « Découverte dans la Lune, faite au Cap de Bonne-Espérance par Herschel Fiss. » Mais pourquoi tout le monde y a cru et comment a-t-on dévoilé cette mystification? L'agente Leslie nous raconte.
Évidemment, vu depuis le 21e siècle, on peut juger que la population était, qu'est-ce qu'on peut dire, un peu naïve. Mmh. Mais la question de la vie sur la Lune était tout à fait sérieuse et scientifique à cette époque. D'ailleurs, l'astronome John Herschel disait lui-même que la vie sur la Lune n'était pas impossible.
Herschel, donc, celui qui est crédité dans cette série d'articles pour ses extraordinaires découvertes lunaires, c'est ça?
Oui, et qui, pendant ce temps, se trouve au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, il apprend peu après la publication du Sun qu'il est devenu, sans le vouloir, une star d'astronomie et d'un canular.
Voilà, et alors comment est-ce qu'il a pris la chose?
Mais au début, ça l'a plutôt amusé. Il aurait dit à son assistant que malheureusement, ses découvertes à lui ne seraient probablement jamais aussi excitantes.
Vous parlez de son assistant, donc c'est ce fameux Dr Grant, c'est ça?
Ah non, 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 non. Le Dr Grant n'existe pas ailleurs que la fable racontée par le Sun. Mais plus tard, lorsque Herschel est revenu en Europe et que les journalistes ont continué à questionner sur la vie lunaire et les hommes-chaussuris, Herschel a trouvé tout ça, mais un peu lassant.
Oui, on le comprend. Alors, vous le disiez, la question de la vie sur la Lune et ailleurs dans l'univers était assez débattue à l'époque.
Oui, oui, oui. C'est d'un côté, d'un point de vue scientifique, et de l'autre, d'un point de vue religieux. La tendance était à ce qu'on l'a appelé la théologie naturelle. Pour ses partisans, la vie était forcément partout dans l'univers. Dieu avait eu l'intention, dans sa création, de promouvoir la vie. Mmh. D'ailleurs, la science découvrait à l'époque, avec le microscope par exemple, que la vie pouvait prendre des formes très différentes de celles que nos yeux permettaient d'appréhender. Par exemple, les microbes. Donc, la vie, volonté et création divine devaient logiquement être partout. Mmh. Un exemple. le révérend Thomas Dick, c'était un célèbre professeur de sciences écossais. En 1823, il publie un livre au titre assez génial, Le philosophe chrétien, ou Connexion de la science et de la philosophie à la religion.
Ah oui, bon, c'est un sacré programme,
absolument,
hein, tout de même.
Oui. Eh bien, dans ce livre scientifique, Dick estime la population de chaque astre connu du système solaire. Que ça, hein? Mercure, par exemple, doit avoir 9 milliards d'habitants et la Lune, plus modeste, environ 4 millions. Voilà pourquoi, en 1835, la mystification de la vie sur la Lune se comporte comme un arbre que l'on plante dans une terre fertile.
Oui, mais alors, tout de même, la fable va loin, hein, des castors qui vivent dans des huttes et des hommes chauves-souris qui s'accouplent dans le ciel, c'est peut-être un peu fort.
Mais vous savez ce qu'on dit, rien n'est plus facile que de faire croire l'impossible à celui qui a envie d'y croire. Et à cette époque, la public voulait croire à la vie sur la Lune. Et il était bien servi.
Alors ça, vous pouvez le dire. Mais alors, j'imagine quand même que tout le monde n'a pas cru à cette histoire tout de même.
Mais bien sûr que non. Et celui qui a mené une belle enquête pour démystifier cette histoire s'appelait James Gordon Bennett. Et soyons clairs, Bennett a intérêt à tirer cette affaire au clair. Il est le patron du New York Herald.
Alors ça, c'est, on l'a dit, hein, c'est ce quotidien lancé en 1835, exact, qui était finalement concurrent du Sun de New York.
Concurrent plus sérieux et plus cher. Donc, il importe à Bennett de faire ses preuves. Et il fait un bon travail. Pour commencer, il relève une erreur flagrante. Les 6 articles lunaires ont été présentés par le Sun comme une reprise du Edinburgh Journal of Science. Remember? Oui. Il se trouve que cette publication n'existe plus depuis 1833.
2 ans avant.
Exactement. Elle a fusionné avec un autre journal scientifique publié à Londres.
Oui, là, ça fait mal déjà.
Oui, très mal. Mais Bennett va plus loin. Il révèle le nom de celui qui a écrit la série d'articles lunaires, un certain Richard Locke. Locke est journaliste au Sun et Bennett l'a déjà croisé à New York. En discutant avec lui quelques mois avant cette mystification, il a réalisé que Locke avait tout d'abord fait des études scientifiques, qu'il avait notamment des connaissances en astronomie et en optique. En fait, ce qui avait choqué Bennett, c'est la très grande culture générale et scientifique de ce jeune Locke. Engagé pour le Sun, donc, pour lui, un journal vraiment pas sérieux.
Oui, donc en fait, ce Bennett n'a aucune preuve que Locke est vraiment l'auteur du canular.
Non, mais son intuition est, on le saura plus tard, la bonne. Dès le tout début du mois de septembre, donc dès le lendemain de l'apparition des 6 articles lunaires, Bennett, dans son journal, explique que tout est faux.
Ah, et alors comment réagit The Sun?
Ouais, tu peux imaginer, assez mal. Il nie. Ce qui énerve Bennett, qui des mois plus tard continue de tirer à boulet rouge sur Locke et The Sun dans son journal.
Alors ça, c'est journal contre journal. Et le public dans tout ça?
Le public, hein. Majoritairement, il continue à croire à la fable du Sun. Je vous le disais, ils avaient envie de cette histoire. Et d'ailleurs, lorsque des traductions sont effectuées, par exemple en France, les éditeurs savent sans aucun doute que The Edinburgh Journal of Science n'existe plus depuis longtemps. Donc, on publie l'histoire simplement parce que le public veut la lire.
Et d'ailleurs, c'était la motivation principale du Sun et de Locke à l'origine, j'imagine, de vendre des journaux.
C'était sans doute la motivation principale, oui. Mais Richard Locke était brillant. Et il est probable qu'il ait aussi voulu se moquer des théories du philosophe chrétien, qui étaient très en vogue.
ce fameux Thomas Dick hein, dont vous nous avez parlé, et ses 4 millions d'habitants de la Lune.
Hein. Exactement. Ou encore un professeur d'astronomie de l'Université de Munich qui affirmait avoir observé sur la Lune des zones de végétation et des formes géométriques qui indiquent l'existence de murs et de bâtiments colossaux.
Mmh. Donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir avoué rapidement, après les avoir publiés, ces fameux articles, que tout était faux?
Mais tu as dit toi-même, sans doute pour les raisons économiques, le canular a trop bien fonctionné. On vendait maintenant des gravures de paysages lunaires, les rééditions de l'article étaient nombreuses et ainsi de suite. Et puis avouez, ça voudrait dire qu'on donnait raison à son concurrent Bennett. Hein? Donc, mon hypothèse est que Richard Locke s'est retrouvé prisonnier de sa propre fable.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation, Isabelle Barthes. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et parmi ces épisodes, il y a celui sur l'homme de Piltdown, un crâne humain qui serait le chaînon manquant entre le singe et l'homme.